Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, très belle journée à tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est une information qu'on vous révèle ce matin sur RMC. 25 ans après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, le terroriste français Zakaria Smoussaoui, le seul à avoir été condamné pour sa participation, vous entendrez qu'il demande à purger la fin de sa peine de prison en France. Il est très attendu, c'est ce matin à 9h, que le gouvernement va finalement dévoiler le contenu de son plan d'urgence agricole. Dans un contexte de canicule, la 6e depuis le début de l'année, nous serons en direct de Toulouse, où on attend jusqu'à 38 degrés aujourd'hui.
Bientôt 25 ans après les attentats du 11 septembre, l'unique terroriste condamné demande à purger sa peine en France.
Oui, vous vous souvenez certainement de son nom, Zakaria Smoussaoui, 58 ans. Aujourd'hui, membre revendiqué d'Al-Qaïda, condamné donc à la prison à vie. C'était en 2006 aux États-Unis. Mathias Tesson, vous êtes le chef du service police-justice à RMC, en direct avec nous ce matin. Et vous nous révélez donc qu'il demande à purger la fin de sa peine de prison en France. Pourquoi cette demande ?
Eh bien, il espère ainsi un jour obtenir des conditions de détention peut-être plus favorables sur le territoire français. Rappelons qu'il est incarcéré aux États-Unis dans une prison de très haute sécurité. Il dénonce aujourd'hui des mesures d'isolement sans limite et une limitation drastique de ses contacts humains. L'homme de 58 ans demande aussi le maintien de ses liens familiaux, notamment pour pouvoir voir sa mère qui est en France et dont l'état de santé ne lui permettrait pas de se déplacer jusqu'aux États-Unis. Un transfèrement en France lui laisserait aussi une infime chance d'être libéré un jour.
Tout le monde se pose la question évidemment ce matin, est-ce que ça a une chance d'aboutir?
Alors cela apparaît aujourd'hui très improbable, même si sur le principe cela est possible. En réalité, il faudrait l'accord des deux pays et c'est vrai qu'on imagine mal, sauf coup de folie, Donald Trump accepter de se débarrasser du seul condamné pour cet attentat responsable de près de 3000 morts aux États-Unis et qui a changé la face du monde. Son avocat en France, maître Romain Ruiz, compte aussi demander la révision de son procès aux États-Unis.
Information RMC, donc signé Mathias Tesson ce matin. Les États-Unis, on en parle, on y reste, rien ne les arrête. Visiblement là-bas, vous savez qu'on est en pleine campagne pour les élections de mi-mandat. Et alors Donald Trump a trouvé un nouveau moyen de mettre en avant sa politique anti-immigration. Romain, vous allez tout nous expliquer dans un instant. Ces dernières heures, la Maison Blanche a mis en ligne sur son site internet un jeu vidéo qui consiste à attraper des personnes en situation irrégulière.
Oui, c'est un jeu inspiré d'un classique du jeu d'arcade auquel toute une génération a joué, c'est Snake. Le principe, vous dirigez un serpent qui doit manger des points pour grandir sans se mordre la queue ni toucher les murs. Voilà, c'est la même chose, sauf que là, vous n'incarnez pas un serpent, mais Tom Homan, principal conseiller de Donald Trump sur l'immigration. Et vous devez interpeller et rassembler derrière lui le plus de personnages, des personnes immigrées ayant traversé le fleuve Rio Grande à la frontière avec le Mexique afin de les expulser. Le titre du jeu, protéger la frontière de la horde qui arrive. Et ce n'est pas le seul jeu mis en ligne cette nuit par la Maison Blanche. Il y en a un autre qui consiste à construire un mur à la frontière mexicaine sur le principe du célèbre Tetris. Depuis, les critiques pleuvent aux États-Unis, à commencer par les ONG qui dénoncent une déshumanisation des personnes immigrées. Mais la Maison Blanche défend, elle, une initiative qui, je cite, souligne encore davantage le contraste entre une culture du fun et de la gagne et, je cite toujours, la sombre vision socialiste des démocrates pour l'Amérique.
Sur le continent américain, sachez que le Panama réduit à partir d'aujourd'hui le nombre de bateaux pouvant passer dans son célèbre canal pour la deuxième fois seulement de son histoire, la faute à la sécheresse qui a des conséquences vraiment partout sur la planète et on est bien placé pour le savoir en France avec cette sécheresse donc qui touche nos cultures. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement va enfin dévoiler son plan d'urgence agricole. On en a beaucoup parlé cette semaine. Sébastien Krebs, chef du service politique à RMC, ça aurait dû être hier, finalement ce sera tout à l'heure à 9h et on sait que l'attente est grande.
Oui, et la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, ira elle-même présenter ses mesures en fin de matinée aux agriculteurs sur la foire de Châlons en Champagne. Le gouvernement veut montrer qu'il mesure l'ampleur des difficultés. 90 départements confrontés à des effondrements de la production, insiste Matignon. Un plan destiné à passer l'hiver, avait promis Sébastien Lecornu, et qui devrait comporter des aides pour indemniser les pertes, renflouer la trésorerie des exploitations, financer l'achat de fourrage ou d'engrais, ce qui va nécessiter une enveloppe considérable au-delà du milliard d'euros qu'il faudra financer par de nouvelles coupes budgétaires ailleurs, prévient Matignon. Bercy va procéder à de nouveaux gels et annulations de crédits, d'autant qu'il faudra ensuite travailler un second volet pour relancer la production. Des concertations vont s'ouvrir pour inclure de nouvelles mesures dans le futur budget 2027.
Mais alors la sécheresse, c'est pas prêt de s'arranger hein, avec les nouvelles fortes chaleurs, la nouvelle alerte orange canicule dans 5 départements du Sud. C'est la 6e canicule depuis le début de l'année en France. On attend jusqu'à 38 degrés aujourd'hui à Toulouse. Vous allez l'entendre avec ce charcutier dans un instant, ça en fera certainement un nouveau record de chaleur pour un mois de septembre.
C'est
c'est juste impressionnant. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas connu des records pareils. Et on est à la limite de l'insupportable. Parce que pour nous, pour dormir, pour le travail, pour plein de choses, c'est assez difficile à vivre et à gérer, quoi.
Bon, Météo France l'a confirmé hier, on vient de vivre tout simplement l'été le plus chaud jamais enregistré, l'été le plus chaud de notre histoire. Sur les 92 jours de juin, juillet, août, 83 journées étaient au-dessus des normales de saison. Louis Salé pour RMC. Aujourd'hui, on parle d'un été exceptionnel, mais vous nous dites que si rien ne change, Météo France prévient que dans quelques décennies, un été comme ça, finalement, ce sera habituel.
Oui, en 2100, la France aura gagné 4 degrés de plus en raison du réchauffement climatique. Et un été comme celui de 2026 sera considéré comme un été ordinaire. 2026, c'est une carte postale du climat de 2100, aussi bien en termes de température que de sécheresse des sols. Le record de 53 jours de vagues de chaleur sera largement battu. Il y en aura plus de 90 lors des étés les plus chauds. Le risque incendie sera étendu à l'ensemble du territoire et la saison des feux pourrait durer 2 mois supplémentaires. Mais ce tableau apocalyptique n'est pas figé. Une réduction plus rapide des émissions de gaz effet de serre peut réduire l'intensité de tous ces phénomènes.
C'est un miracle qui semblait presque inimaginable. Au Népal, 10 jours maintenant après la crue dévastatrice, on apprend que les secours ont réussi à extraire, là, cette nuit, 2 ouvriers de chantier qui étaient retenus prisonniers dans un tunnel dans le nord du pays. La France prépare la venue du pape Léon XIV. Ce sera à la fin du mois pendant 4 jours à Paris, Lourdes, Metz également. 15 000 forces de l'ordre seront déployées. C'est ce que dit ce matin le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, dans le journal La Croix. L'information de la nuit en sport, c'est l'élimination. C'est fini pour Gaël Monfils à l'US Open de tennis, battu au deuxième tour par un jeune américain cette nuit pour son tout dernier tournoi du Grand Chelem. Vous savez qu'il va prendre sa retraite à la fin de la saison, lui qui est aujourd'hui âgé de 40 ans. Cette question aussi ce matin, le PSG va-t-il gagner son premier match de la saison en championnat? Paris va jouer ce soir, 21h05, on vivra ça sur RMC contre Monaco, qui est l'équipe en forme de ce début de saison. Contrairement aux Parisiens, donc, qui n'ont toujours pas gagné le moindre match, Valentin Jamin.
Oui, Paris coincé dans la deuxième partie du classement, c'est rare, et si le PSG ne gagnait toujours pas ce soir, ce serait même une première après 3 matchs en Ligue 1 depuis l'arrivée de Luis Enrique. Mais au club, pas d'inquiétude, disent les recrues Lucas Digne et Mika Götze.
La Ligue 1, c'est un marathon aussi, et à la fin, il faut faire les comptes, c'est pas après 2 journées où il faut déjà faire les comptes.
Je pense pas qu'il y a de pression. On est très calme et on va juste essayer de gagner. Mais il n'y a pas de pression.
Monaco pourrait quand même prendre 7 points d'avance ce soir et depuis le début de saison sur la scène nationale. Paris a par exemple perdu aussi le trophée des champions à Lens. Mais le PSG a affronté uniquement des adversaires qualifiés en Coupe d'Europe. Alors Luis Enrique est taquin.
Qu'est-ce que tu penses que c'est? On ne gagne pas, on est dehors de la course à les titres.
L'entraîneur parisien attend aussi que ses 5 recrues s'adaptent.
Ça dépend de beaucoup de facteurs que je ne peux pas contrôler. Il y a beaucoup de choses positives que j'ai vues pendant ces derniers matchs, mais c'est clair qu'il faut améliorer et que chaque année sera très motivant pour les adversaires de jouer contre nous et très difficile pour nous de continuer à gagner.
Face à une équipe de Monaco qui a battu Paris 2 fois la saison dernière.
Alors avant ça, à 19h, Lyon recevra Auxerre et c'est Lille qui est en tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire 1-0. C'était hier soir à Toulouse en ouverture de la 3e journée de Ligue 1.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 sur RMC. S'ils n'obtiennent pas de hausse de salaire, les policiers menacent de ne pas assurer la sécurité du pape en France à la fin du mois. On sera dans un instant avec le délégué national du syndicat Alliance Police. Il est devant le ministère de l'Intérieur. Il s'apprête à rencontrer le ministre et à tenter de négocier. Donc la menace est-elle sérieuse? Il nous le dit dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
8h12 sur RMC. La venue du pape en France à la fin du mois pourra-t-elle avoir lieu? Si vous ne la sécurisez pas, ça ne marchera pas. Johan Maras, bonjour. Vous
Bonjour.
Êtes délégué national du syndicat Alliance Police. Au moment où l'on se parle, vous êtes devant le ministère de l'Intérieur, devant Beauvau. Vous vous apprêtez à rencontrer Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Si le ministre n'accède pas à vos demandes, et notamment de hausse de salaire, vous menacez de perturber la venue du pape en France.
Alors, j'accompagne la délégation, effectivement, qui va rencontrer Laurent Nunez, menée par mon secrétaire général, Fabien Van Demelric. Nous, aujourd'hui, ce qu'on attend du ministre de l'Intérieur, mais il le sait, on s'est mobilisé le 30 juin, on lui a demandé des revalorisations salariales, on lui a demandé deux grands chantiers. Le premier, c'est de tenir les engagements de l'État concernant la LOPMI et le protocole qu'on a signé en 2022.
Expliquez-nous de quoi il s'agit, la LOPMI.
On a signé un protocole avec le ministère de l'Intérieur en 2022. Ce protocole s'est allé sur 5 ans, entre 2022 et 2027. Il y a encore des mesures de ce protocole qui doivent être débloquées et qui, pour l'instant, ne sont pas budgétisées. Il devait y avoir des ajustements et des corrections dans ce protocole. Des collègues notamment qui doivent toucher des primes de voie publique d'investigation qui ont été injustement écartées. Des corrections à faire sur des grilles indiciaires. Tout ce bloc-là, les services de M. Nunez savent très bien ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ce qui nous manque, c'est le budget.
Qu'est-ce qui bloque?
Le budget, j'ai envie de vous dire. Et c'est pour ça,
qu'on est... comme pour les autres.
Et effectivement, sauf que je pense que la police nationale aujourd'hui, dans ce pays, on en a besoin. Les Français ont un besoin de sécurité. Et avoir une bonne police, ça se paye. Et c'est encore ce qu'on va répéter à M. Nunez ce matin. Le deuxième chantier sur lequel on l'attend, c'est la revalorisation de notre prime de risque, la fameuse ISSP qui n'a pas été revalorisée depuis 2019, après les Gilets jaunes.
Depuis les Gilets jaunes, hein. Arthur, je
vous... Exactement.
Bonjour Johan, moi j'ai une question. Je comprends bien vos demandes d'augmentation de budget, mais elles sont justifiées par quoi? Est-ce que vos conditions de travail se sont dégradées? Est-ce que le maintien de l'ordre a changé depuis les Gilets jaunes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre métier?
Les conditions de travail, évidemment qu'elles sont dégradées. Tout est devenu une priorité aujourd'hui. Voyez l'état du pays, le narcotrafic est une priorité, les violences intrafamiliales sont une priorité. En fait, on demande toujours plus et toujours moins à mes collègues sur le terrain. Et encore une fois, avoir une police engagée et qui va répondre à tout ce qu'on lui demande aujourd'hui, ça se paye.
Ça se paye, dites-vous, et vous avez effectivement menacé donc peut-être de ne pas assurer la sécurité au moment de l'avenue du Pape, d'un mouvement de grève le 15 septembre. Est-ce que cette menace, elle est réelle?
Alors, c'est pas un mouvement de grève, hein. La police nationale n'a pas le droit de faire grève.
Oui, parce que vous n'avez pas le droit, effectivement, de faire grève.
On a annoncé une nouvelle mobilisation et une rentrée sociale un peu tonitruante qui démarrera le 15 septembre, mais on s'arrêtera pas au 15 septembre si on n'est pas entendu. Et on s'interdit rien, effectivement. Il va falloir que Laurent Nunez aille chercher du budget pour ses policiers.
Vous travaillez le soir, le week-end, les jours fériés. On en parle depuis le début de la semaine aussi de ces questions de métier où on travaille parfois de manière extrêmement tendue. Est-ce que vos heures sup ont été payées?
Alors les heures sup, c'est un serpent de mer dans la police nationale. Il y a une partie des heures supplémentaires qui, depuis quelques années, sont rémunérées. Elles sont rémunérées déjà pas en fonction de l'indice des collègues. Ça veut dire qu'on leur donne un montant fixe et peu importe le grade du collègue. Ça, c'est un vrai dysfonctionnement. Mais sur l'engagement de mes collègues au quotidien, on parle d'un gardien de la paix aujourd'hui qui est payé 2000 euros. Et comme vous le dites, il travaille la nuit, il travaille les jours fériés, il travaille les week-ends, il est loin de sa famille, il fait des journées de 12 heures. Eh ben, effectivement, aujourd'hui, un policier devrait être payé plus que ça. Et quand on regarde nos voisins européens, les polices sont mieux payées qu'en France.
Merci beaucoup. Merci, Johan Maras. Vous êtes délégué national du syndicat Alliance Police. Merci à vous. Cette rencontre qui aura lieu donc dans les prochaines minutes avec le ministre de l'Intérieur. Je voudrais qu'on parte au 32-16. Il y a Zlatan qui nous appelle. Bonjour, Zlatan. Vous vouliez revenir sur ce fameux radar, le radar du chantier de la porte de Montreuil, machine à cash, dénoncent les associations. Et vous, Zlatan, vous êtes avec nous? Allô? Je crois que Zlatan voulait nous dire qu'il avait réussi à ne pas se faire piéger, mais il voulait alerter, effectivement, donc un le seul qui a réussi à échapper à ce radar fou. Merci en tout cas Zlatan, vous n'hésitez pas à rappeler parce que là on vous entend pas. Il est 8h17, Arnaud Demanche est là.
RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche.
Salut Arnaud.
Et bonjour Apolline. Bonjour tous les amis. Comme vous êtes beaux et rayonnants ce matin.
J'ai toujours peur quand je commence.
Ouais. Mais non, c'est juste pour être sympa. Allez, parlons sport.
Oui.
On vient d'avoir Zlatan, pas au téléphone. Mais on va parler de Lionel Messi.
Ah oui.
Prend sa retraite internationale. Celui qu'on surnomme le Jérôme Roten argentin. Le Christophe Dugarry de Rosario. Eh bien, il se sent plus d'apporter suffisamment à l'Argentine. Vous savez, il a déclaré... et moi mon truc c'est le foot, hein, le MMA j'y connais rien, parce qu'il sait pas faire un étranglement comme ses coéquipiers. Dans un an vous le verrez devant toutes vos vidéos YouTube, il te proposera de vendre ta voiture, le Lionel Messi de tout cocher point Argentina, et ce sera super. Tant qu'on est sur RMC, qu'on parle d'RMC, grosse nouvelle média. Gros truc, BFM TV et RMC lancent RMC+, une nouvelle plateforme de streaming. Tremblez, Netflix et Amazon, et voilà, on arrive. RMC+, débarque avec plein d'émissions. Par exemple, LOL, spécial grande gueule. Celui qui laisse l'autre finir sa phrase, et ben, il sort. J'écoutais à l'instant Bruno Poncet. Excuse-moi Bruno, mais je t'interromps pas quand tu m'interromps, mais ne m'interromps.
Non mais moi je pense que ça suffit en fait.
Éliminez les deux. Il y aura aussi l'adaptation de Love is Blind avec Estelle Denis. Et bienvenue dans cet épisode de L'amour est aveugle. Et on accueille Raymond.
Estelle, tu veux m'épouser?
Il est chiant Raymond. Il est relou. Hein. Et enfin, grosse exclue de RMC+, la Casa des Papels. Manu le Chypre, alias Frankfurt. Et sa complice, Edwige Chevrillon, alias Düsseldorf, s'enferme dans la banque centrale de Zurich pour la braquer.
C'est bon ça.
Moumoune, attache les employés. Qu'est-ce que tu fais avec les menottes? Tu es en train de t'attacher, toi. Prends-moi en otage, Frankfurt. Fais-moi l'amour sur des vieux Deutschmark devant le portrait de Gerhard Schröder.
Il ferme les yeux, Manu.
Il se cache les yeux. Ouais. Il se cache les yeux. Et ben tout ça, ce sera sur RMC+. Abonnez-vous.
J'attends ça.
Abonnez-vous.
Un nouvel épisode de Canicule. Arnaud va toucher le sud de la France.
Aïe. À BFM TV, vous savez, ils ont le gars de la météo qu'ils envoient sur le terrain, là, Kevin Floury. Il a dû devenir livide pendant la conférence de rédaction. Kevin, ce serait pas une nouvelle canicule?
Oh non, pitié! Pas les duplex de 6 heures en plein soleil sans boire.
Kevin, c'est dans ton contrat.
Non! Vous m'avez déjà obligé à regarder le soleil sans lunettes pendant l'éclipse pour prouver que c'était pas dangereux. Alors que c'était dangereux.
Alors au Japon, ils ont trouvé un truc face aux canicules. C'est vrai, hein, c'est vrai de vrai. Des entreprises installent des frigos pour humains. Et les salariés peuvent aller dedans pour se rafraîchir. Ça, faudra gueuler sur BFM Business.
Ah ouais.
C'est typiquement français. On s'est encore fait dépasser. Si Véronique Courgeot avait déposé le brevet en 2006, ben on se serait pas fait piquer le marché par les Japonais. Voilà, un coup de gueule à pousser.
Éric Ciotti a annoncé l'installation de mâts dans les écoles de Nice. Il voulait y faire flotter les drapeaux français.
Oui, alors en fait, c'est pas des mâts, c'est des manches à balai. Mais pour Éric Ciotti, c'est l'antenne de la Tour Eiffel. Non, mais Éric Ciotti, voilà, il regrette l'école d'avant. Mais c'était quoi l'école d'avant? Eh bien, c'est l'occasion d'un petit quiz de fin de semaine. Cette matière a-t-elle été enseignée à l'école française? Arthur Chevalier va se régaler. Attention, c'est parti. Des cours pour s'occuper d'un poulailler.
Oui.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, ça existe encore. Karim Bouanran, le maire de Saint-Ouen, propose même des cours pour s'occuper d'un master poulet. Des cours de maniement du fusil à l'école primaire.
Oui.
À partir de 1882, on apprend aux enfants de CM1 à tirer.
Bataillon scolaire, ça s'appelle.
Bataillon scolaire, exactement.
Mais bon,
le ton qui broque quand tu
dis. Mais bon, ça triche. Il y en a un des joueurs, c'est tout.
Quand tu penses qu'aujourd'hui, on leur confisque le portable parce que c'est trop dangereux. Des cours pour nettoyer, balayer, astiquer, Kazla toujours pimpant.
Oui.
Cours de oui. Bah si, il y avait ça. C'est Zouk Machine qui faisait les programmes. Des cours de travail du fer à la forge.
Non.
Si, il y a eu aussi, ouais.
Ah oui, l'artisanat.
Des cours de distillation d'alcool.
Non.
Alors non, mais je l'ai quand même fait en cours de chimie, moi.
Ça, oui, en primaire. Enfin,
ouais, mais Versailles, c'était Peaky Blinders. Des cours pour apprendre à échapper aux pédophiles. Techniquement, faudrait, c'est pas tout à fait faux. Hein. C'est quand même un peu vrai. Hein. C'est dommage qu'on leur entraîne plus à s'exercer au fusil. Oui. C'était une bonne combine aussi. Voilà. Donc on apprend aux enfants à reconnaître les pédophiles, puis après on les met dans le périscolaire parisien pour les travaux pratiques. C'est bien foutu. Des cours pour apprendre à parler le poids de Vincent Tonget.
Ah bah ça pourrait.
Oui. Il y a eu.
Vers Poitiers.
Des cours de techno où on t'apprend à organiser une rave party.
Alors des cours de techno, oui, la rave party, non. Moi j'ai eu des cours de techno.
techno. Ah, vous l'avez eu le truc où on vous donne un fer à souder pour fabriquer un triangle qui clignote. Moi, je l'ai fait aussi. On a distribué des produits chimiques, des fers à souder. Ouais, non, mais Versailles, vous dites, c'était l'enfer. Je sais pas si tout était légal dans ma scolarité, mais en tout cas, c'était fun. Allez, bon week-end et à demain.
Excellent week-end.
Quel beau message de rentrée.
Travaillez bien, les enfants. Il est 8h23. Attention, ils m'écoutent. Ils arrivent à l'école. Non, c'est vraiment super, l'école. Merci Arnaud, qu'on retrouve donc en podcast et sur scène avec un nouveau spectacle. Vous serez à Rouen, à Caen, au Garric, à Yssingeaux, à Montpellier, à Aix-en-Provence ou à Toulon. Et c'est un spectacle RMC. Il est 8h23, dans un instant, la politique, le face-à-face. Mon invité, c'est Raphaël Glucksmann, candidat pour cette primaire du Parti Socialiste et de Place Publique, candidat à l'élection présidentielle. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h27.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
Dans moins d'une demi-heure, ce matin 9h, rendez-vous donné par le gouvernement pour détailler son plan d'aide aux agriculteurs. Selon les informations de RMC, son montant devrait dépasser le milliard d'euros que le Premier ministre veut trouver en gelant ou en annulant d'autres dépenses dans le budget 2026. Cette information que vous dévoile RMC ce matin, le condamné français des attentats du 11 septembre demande son rapatriement. Zakarias Moussaoui, proche d'Al-Qaïda, veut terminer de purger sa peine de prison à vie en France. Le passage dans le détroit d'Ormuz, presque revenu à la normale. C'est en tout cas ce qu'assure le vice-président américain J.D. Vance, qui refuse de qualifier ce conflit avec l'Iran de guerre, qui refuse aussi de donner une date de fin des hostilités. Un sauvetage à peine croyable au Népal, presque une semaine après les crues meurtrières. Deux ouvriers ont été sortis vivants des décombres ce matin. Ils étaient piégés dans le tunnel d'une centrale hydroélectrique. Le dernier bilan de la catastrophe est de 1280 morts et plus de 5600 disparus. Du tennis, Gaël Monfils fait ses adieux au tournoi du Grand Chelem. Le Français a joué son dernier match au plus haut niveau cette nuit à l'US Open. Défaite rapide en 3-7 contre l'Américain Tienne. Première qualification au troisième tour d'un grand chelem en revanche pour Arthur Géa. Ça passe aussi pour Benjamin Bonzi face à la tête de série Ignacio Bouzé. En foot, il y a un nouveau leader en Ligue 1 ce matin. C'est Lille qui a ouvert cette troisième journée du championnat par une victoire à l'arraché. Un petit but à zéro face à Toulouse. Deux matchs au programme aujourd'hui. Lyon-Auxerre à 19h et le choc Paris Saint-Germain-Monaco à 21h05. Vous les suivrez évidemment sur RMC. La météo, sixième canicule de l'année. Cinq départements en vigilance orange aujourd'hui. Aude, Hérault, Gard, Ardèche et Drôme. Cet après-midi, plusieurs records de température devraient être battus. De 22 degrés à Brest jusqu'à 37 à Lyon et Bordeaux. Il fera 33 à Marseille, 36 à Toulouse, Clermont ou encore Grenoble. Tout de suite, vous avez rendez-vous comme tous les jours avec le face-à-face sur RMC. Apolline de Malherbe reçoit Raphaël Glucksmann, eurodéputé place publique, mais surtout candidat à la primaire socialiste.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, candidat à cette primaire du Parti Socialiste et de Place Publique. Vous êtes également député européen. Beaucoup de questions à vous poser. Votre programme qui, de jour en jour, se complète sur les retraites, sur les héritages, sur les taxes, sur l'école. Mais au fond, en préparant cette interview, je me demandais si cette rentrée n'était pas en train de devenir la rentrée de François Hollande plutôt que la rentrée de Raphaël Glucksmann. Est-ce que le candidat de la gauche, c'est pas en train de devenir François Hollande ?
Alors écoutez, moi je pense qu'on aura besoin de tout le monde et je suis très content que François Hollande expose ses idées, qu'il développe sa vision du monde. Mais là, nous avons une primaire qui va décider du candidat ou de la candidate de l'espace social-démocrate, de l'espace socialiste et démocrate. Et je compte bien, moi, l'emporter et être ce candidat pour remporter l'élection présidentielle. Parce que je pense que notre espace politique peut gagner cette élection.
Il est dans un autre timing que le vôtre.
Ouais.
On a l'impression que pour lui, cette primaire même n'existe pas, à part le fait qu'il dit qu'il va y voter, puisqu'il est lui-même adhérent. Mais il dit, en fait, la vraie question, elle se posera en décembre. Mmh. Comme si, au fond, vous étiez candidat à une élection pour du beurre.
Mais non, en fait, la stratégie de François Hollande, elle est limpide et elle est parfaitement respectable. Il attend de voir si
je
réussis à enclencher une dynamique, mais c'est pareil pour tout le monde, vous savez. Moi, depuis le début, j'essaye de régénérer cet espace politique et de dire une chose simple: j'en ai marre de cette gauche qui joue toujours le coup d'après, qui est habitée par l'esprit de défaite, qui sacrifie ses principes pour des circonscriptions. Et je veux, moi, que nous gagnions l'élection présidentielle. Donc en fait, voilà, la responsabilité, elle pèse sur mes épaules. Il faut que j'enclenche cette dynamique. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, eh bien, c'est que cette dynamique commence. Ça fait une semaine qu'on est en campagne.
C'est-à-dire?
Ben, ça fait une semaine qu'on est en campagne. Les sondages augmentent. Il y a un enthousiasme sur le terrain, des adhésions en masse. Et d'ailleurs, j'en profite ce matin pour m'adresser à vos auditeurs et vos téléspectateurs en leur disant, mais si vous en avez marre de vous plaindre de l'état de la gauche, venez, adhérez, emparez-vous de ce scrutin, changez-la. Et on va prendre ensemble le pouvoir pour changer la vie des Françaises et des Français, parce qu'on en a marre de ces 10 années d'injustice et d'impasse du macronisme, et parce qu'on ne veut pas que notre pays soit offert à Madame Le Pen et à l'extrême droite.
Mais vous comprenez que quand on entend François Hollande, qui clairement a un programme, il le développe dans
vous
son livre,
l'inviter, hein.
Mais vous inquiétez pas qu'on le fait aussi, mais il est déjà partout. Justement, il est partout, il parle partout, et il est sur en campagne. Il l'ouvrira même à partir de lundi, un QG de campagne à Paris, dans le 11e. Est-ce que ça veut pas dire que votre élection à vous, c'est le brouillon, et que bah, le vrai candidat, il arrive en décembre et qu'il est en train de préparer son décollage?
Écoutez, dans toutes les enquêtes d'opinion, je suis largement devant. J'ai fait un score aux européennes qui a suscité un espoir chez les millions de Françaises et de Français. Et il y a là l'opportunité de résoudre la question de la candidature. Ça s'appelle une primaire. Les adhérents du Parti Socialiste, de Place Publique, et ceux qui voudront nous rejoindre et adhéreront à la plateforme commune, pourront choisir leur candidat.
Mais vous savez, la
malédiction de cet espace politique, de la gauche démocratique, c'est que nous, on est enfermés dans des questions de personnes et de process, on débat sur le nombre de débats, on débat sur la nature de tel ou tel processus, pendant que les autres font campagne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas finalement François Hollande, Olivier Faure, Raphaël Glucksmann. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on engage la bataille avec Marine Le Pen, avec Jean-Luc Mélenchon, avec Édouard Philippe, qui sont nos véritables concurrents dans cette élection. Et donc, à force de ne penser qu'à soi, de se regarder le nombril, la gauche démocratique perd toutes les élections nationales. Moi, je veux mettre fin à cet esprit de défaite.
Si votre argument, Raphaël Glucksmann, c'est de dire j'ai lancé une grande dynamique au moment des européennes, donc ça va me porter. Yannick Jadot avait fait 14% aux européennes.
Je vous remercie d'évoquer Yannick Jadot, parce que ensemble nous allons mener la révolution écologique.
Eh bien, vous avez vu ces chiffres, j'imagine que vous les avez analysés. Oui. Il avait fait à peu près le même score que vous aux européennes. Il s'est totalement écroulé au présidentiel. Donc là, la dynamique des européennes, c'est pas la même.
C'est pas la dynamique des européennes. Ce qu'on est en train de construire, c'est une équipe pour gouverner le pays, avec Yannick Jadot, avec Boris Vallot, avec Carole Delga, avec Laurence Rossignol, avec Nicolas Mayer-Rossignol, avec Aurore Laluc. En fait, nous sommes en train de construire l'équipe qui va d'abord refonder la gauche sur des bases claires et qui ensuite va gouverner ce pays. Et moi, je suis convaincu que les Françaises et les Français en majorité ne voudront pas reconduire un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron pour reproduire les mêmes politiques avec les mêmes gens, pour que vous soyez obsédé par une question, c'est quel est le poste de Monsieur Darmanin? Alors, est-ce qu'il sera Premier ministre, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères? On en a marre. Et donc, il faut tourner cette page. Mais pour tourner cette page, il faut une offre politique nouvelle. Et c'est ce que nous allons proposer avec des changements radicaux.
Donc, pour vous, l'écologie, ça a été votre premier déplacement. C'est extrêmement important. Vous avez entendu ce matin 1 milliard d'euros qui vont être débloqués pour aider les agriculteurs. Vous auriez, vous aussi, débloqué cette aide-là si vous étiez président?
La sécheresse, il faut une aide d'urgence pour nos agriculteurs. On a besoin de nos agriculteurs. On a besoin qu'en France, eh bien, il y ait encore des paysans. On a besoin de, y compris pour mener à bien la transformation écologique. Ils seront l'avant-garde de cette transformation, les agriculteurs. Mais moi, ce que je note, c'est que dans le même temps, eh bien, on sabote le fonds qui était destiné à la rénovation thermique des écoles, à l'adaptation des écoles à la canicule. On a eu des enfants qui ont littéralement cuit dans leur salle de classe.
Et on est à nouveau dans une alerte canicule aujourd'hui.
Voilà. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, c'est que le gouvernement diminue de 60 millions le fonds qui était destiné à adapter nos classes aux canicules, et que donc l'année prochaine, eh bien, on se retrouvera exactement dans la même situation que cette année. Et cette impréparation permanente face au réchauffement climatique, eh bien, c'est un scandale. Ça met en danger nos enfants, ça casse la continuité du service public, ça oblige les écoles à fermer, ça empêche les enfants d'apprendre, et le résultat de toute cette impréparation, c'est que la France sombre dans le chaos à chaque événement climatique. Eh bien, moi, je mettrai fin à cela. Nous lancerons la révolution écologique, l'adaptation de la France au changement climatique, et nous serons prêts. La France sera gouvernée.
Vous les adapterez comment? Est-ce que vous accepterez l'idée de clim dans les écoles?
Il faut de la clim. Okay. Nous, on n'a aucun problème avec l'existence de la clim. Il faut dans l'urgence de la clim, mais ça ne suffit pas. La clim n'est pas la réponse au réchauffement climatique. Donc, il faut un plan de rénovation des écoles. Vous savez que 30% des écoles françaises, eh bien, sont délabrées ou insalubres. Et donc, nous, ce que nous proposons, c'est un plan de bâtisseurs d'écoles. On a, en gros, 4000 écoles à rénover chaque année. Ça suppose des investissements. Les collectivités locales ne pourront pas le faire seules.
Donc,
et aujourd'hui, et oui, avec une participation de l'État. Et aujourd'hui, le gouvernement envoie le signal qu'on a déjà tourné la page de la canicule. Mais c'est normal. Parce que depuis 10 ans, ils gouvernent comme ça. Ils font des séquences. Ils arrivent. Un ton martial. Nous ferons face à la canicule. Et 10 jours après, ils ont oublié. Et ils sabotent les budgets que eux-mêmes ont annoncés.
Raphaël Glucksmann, sur ce plan pour l'agriculture, il y a deux questions en particulier sur lesquelles je voudrais vous interroger. Mmh. Vous avez dit, on aura besoin d'eux aussi pour s'adapter au réchauffement climatique. La question du stockage de l'eau. Édouard Philippe est favorable. Il dit oui, il va falloir stocker l'eau. Les Espagnols le font. Et en France, il y a un débat là-dessus. Vous, vous êtes pour ou vous êtes contre?
Moi, je suis pour le stockage de l'eau et simplement les méga-bassines. Eh bien, ce qu'il faut, c'est un moratoire sur ces mégabassines pour une raison simple. C'est qu'il faut de la concertation dans l'utilisation commune de l'eau. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on propose, c'est des parlements de l'eau. Que tous les acteurs d'un territoire puissent avoir leur mot à dire. Pour pas que l'eau soit captée par quelques
donc,
exploitations.
Vous voulez bien qu'on la stocke?
Non, mais ce que je veux dire...
Ça, pardon, je veux essayer de comprendre. La mégabassine, ok.
Non, pas les mégabassines. Les rétentions d'eau, puisque c'est ça quand vous dites on stocke. Bien sûr qu'il faut des rétentions d'eau. Bien sûr que sur certains territoires, c'est nécessaire. Mais la méga-bassine qui irrigue seulement quelques exploitations et qui prive les autres agriculteurs de l'accès à l'eau, ça ne fonctionne pas. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une gestion démocratique de l'eau. Mais je vais vous dire une chose très simple. Pourquoi les agriculteurs seront à l'avant-garde de la transformation écologique? Mais parce que le premier geste que devra faire un président de la République quand il sera élu en mai prochain, c'est d'aller renégocier la politique agricole commune. Parce que aujourd'hui, on a une politique agricole commune qui bénéficie à 10% des agriculteurs français, qui bénéficie aux gros exploitants de la Beauce, mais qui ne bénéficie absolument pas à tous ces agriculteurs qui aujourd'hui gagnent un salaire de misère pour travailler 70 heures par semaine. Et donc nous changerons cela et nous organiserons la rémunération des services écologiques rendus à la collectivité. Par exemple, quand vous avez une friche, moi, dans les régions viticoles, vous avez de l'arrachage, ça se transforme en friche. La friche, c'est ce qui va déclencher, démultiplier les risques d'incendie. Eh bien, les agriculteurs qui s'occuperont de ces friches seront rémunérés. Et ça, on a le budget pour ça. Et qui bloque aujourd'hui à Bruxelles ce genre d'évolution? Qui bloque? Eh bien, la France, malheureusement. Je dois vous le dire, la France d'Emmanuel Macron. Et les autres Européens sont prêts à le faire. Nous le ferons.
Raphaël Glucksmann, une question. Il y a eu le stockage de l'eau. Je voudrais vous poser aussi la question des prix. Hier, le patron de la FNSEA était à mon micro. Ce matin, j'ai reçu le patron de Bonduelle et Casse-Grain sur RMC. Et les deux, au fond, tiennent le même discours. Ils disent, on a trop tiré vers le bas les prix de l'alimentaire. Et ça n'est plus tenable. Il va falloir accepter une inflation sur l'alimentaire. Alors, ça représenterait quelques centimes par boîte de conserve de petits pois. Mais il dit c'est soit ça, soit l'agriculture en France meurt. Est-ce que, oui, il faut accepter une inflation sur les prix de l'alimentaire agricole?
Ce qu'il faut, c'est que les producteurs soient justement rémunérés.
Donc, ça veut dire quand même qu'au bout de la chaîne, on va payer plus cher sa brique de lait et sa boîte de conserve.
Qu'est-ce qui fabrique le prix, Apolline de Malherbe? Ce sont les intermédiaires. Ce sont les marges qui sont dégagées. Et donc, on a... là, un effort majeur à faire.
Oui, mais à un moment ou à un autre, c'est ce qu'ils vous disent. Ça va quand même finir par remonter.
Oui, mais il y en a qui font beaucoup, beaucoup d'argent en ce moment. Et ce ne sont pas les producteurs.
Donc vous parlez
quoi? Ce ne sont pas les agriculteurs.
Vous parlez des marques? Vous parlez
ce sont les intermédiaires, les marques, l'agro-industrie. C'est là où on doit faire pression pour baisser les prix. Et en réalité, aujourd'hui, on est dans un marché qui est totalement opaque. Eh bien, nous allons le rendre transparent. Et je vais vous dire une chose.
On devra savoir quelle part revient vraiment à l'agriculteur dans une barquette de jambon ou dans une boîte de conserve de petits pois.
Et les consommateurs seront surpris de voir à quel point nous rémunérons mal nos producteurs, nos agriculteurs. Et moi, ce que je veux dire, une chose très simple, la France a besoin de ses agriculteurs. On a fait, grâce à eux, une transformation majeure pendant 40 ans. Eh bien, cette transformation, c'était de mettre fin à la disette, d'avoir une agriculture qui produisait beaucoup.
Là
désormais, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour mener à bien cette transformation écologique.
Celui qui dit ça, Raphaël Glucksmann, hier, c'est le représentant des agriculteurs. C'est le premier syndicat agricole.
Vous savez.
Il va falloir augmenter les prix.
Mais les positions défendues par la direction de la FNSEA, je suis désolé, sont souvent en contradiction avec les intérêts des éleveurs, avec les intérêts des petits agriculteurs, des petits exploitants qui, eux, ne s'en sortent pas.
Donc quand il dit qu'il faut augmenter les prix, vous dites que c'est contre les agriculteurs qu'il le dit?
Non. Qu'on paye au juste prix les producteurs, oui, mais pourquoi ils ne s'attaquent pas dans ce cas-là aux marges qui se dégagent entre le producteur et le consommateur. Et c'est là qu'il va falloir trouver des marges. Mais je vais vous expliquer. Aujourd'hui, eh bien, vous avez des représentants du monde agricole qui, à Bruxelles, luttent d'arrache-pied pour empêcher toute réforme de la politique agricole commune. Par exemple, savez-vous que la France est un des seuls pays européens qui n'a pas de plafond sur les aides ? C'est-à-dire que vous avez des grands agro-industriels qui bénéficient de millions d'euros de la politique agricole commune pendant que vous avez des petits exploitants qui n'en bénéficient pas. Eh bien, moi, je vais vous dire, dans tous les autres pays européens, il y a des plafonds. Ça veut dire qu'on a une répartition égalitaire, équitable de ces aides. Et ça permet à quoi? Ça permet aux petits exploitants, aux petits agriculteurs, ceux qui galèrent aujourd'hui, eh bien, de s'en sortir. Et moi, ce que je veux, c'est une politique agricole juste et écologique.
Raphaël Glucksmann, cette semaine, la question du voile est revenue à l'ordre du jour. D'abord parce que le RN a annoncé qu'il voudrait l'interdire. Et puis hier, il y a eu cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui dit avoir commis une erreur lorsque, initialement, il estimait que le voile était, je cite, une soumission de la femme et un signe du patriarcat. Aujourd'hui, à l'inverse, il estime que c'est une forme de liberté de la femme. Quelle gauche êtes-vous ?
Moi, je suis une gauche laïque, républicaine. Mais je tiens à vous dire que si le sujet est revenu au cœur du débat public, c'est parce que le Rassemblement National propose quoi ? Il propose d'envoyer les policiers français faire la chasse aux foulards dans les rues de France. C'est ça. On en est là, sérieusement. Et donc, en relançant ce débat-là, le Rassemblement National sait très bien ce qu'il fait. Il veut relancer les fièvres identitaires. Eh bien, moi, je ne le permettrai pas. Et je ne veux pas que la politique française se résume à un débat entre fièvres identitaires. Et je vais vous dire une chose simple. Ce que propose Madame Le Pen, c'est la négation même de la laïcité. La laïcité, c'est pas la police des vêtements. C'est pas interdire un vêtement dans l'espace public. La laïcité, c'est protéger des sanctuaires comme l'école. C'est la loi de 2004 à laquelle je suis foncièrement favorable, qui protège l'école du prosélytisme religieux. La laïcité, c'est aussi la liberté du choix. Et donc, quand une femme est contrainte, eh bien, il faut que la puissance publique intervienne.
Comment on sait si elle est contrainte ou pas?
Mais parce que ce qu'il faut, justement, c'est appliquer la loi de 1905. Et dans la loi de 1905, il y a des enquêtes qui sont possibles et des sanctions qui sont possibles quand il y a une contrainte. Maintenant, je vais vous expliquer une chose simple. Si la France se transforme dans un pays où la police va arrêter des femmes parce qu'elles portent un voile ou parce qu'elles portent un foulard, eh bien, comment on va ensuite se regarder dans les yeux? Ça veut dire qu'on aura nos policiers qui feront ça. Et comment ils feront la distinction? Comment ils feront la distinction entre le foulard d'une juive orthodoxe et le fichu porté sur la tête par une femme qui est en chimiothérapie et un voile islamique? Ils le feront au faciès. Ils le feront au faciès. Donc en fait, vous aurez eh bien une situation où vous avez une tête d'arabe, soyons cash, vous êtes arrêté et on vous met une amende. Mais c'est quoi ce pays? C'est le pays qu'on veut? C'est le pays qu'on veut, mais moi j'appelle vraiment les auditeurs à réfléchir. Est-ce qu'on veut que la police française soit chargée de faire ce genre de travail? Est-ce que c'est ça la République? Est-ce que c'est ça la France? Moi je pense que la France, ce n'est absolument pas ça.
Vous avez parlé, cela dit, de la question de la liberté de choix ou non. La question s'était posée aussi d'interdire le voile sur les jeunes filles ou sur les fillettes. Est-ce que ça, c'est une question que vous vous posez?
Mais regardez, si vous interdisez le voile en dessous de 15 ans, c'est ça qu'avait proposé
Gabriel Attal.
Donc vous allez avoir des policiers qui vont contrôler l'ensemble des filles qui portent un voile sur la tête pour savoir quel âge elles ont. Sérieusement? Mais enfin, on veut pas d'un pays qui ressemble à ça. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est extrêmement laïque qui vous parle. Mais moi, je ne veux pas que la police de la France soit... Et par ailleurs, j'aimerais poser une question à Madame Le Pen. Latifa Inziaten, dont le fils a été assassiné par Mohamed Merah, par
elle
le terroriste Mohamed Merah, qui porte le foulard. Elle va envoyer la police pour mettre une amende à Latifa Inziaten? Sérieusement? Elle qui lutte contre la radicalisation en permanence, qui défend les principes de la République partout, qui va dans tous les quartiers du pays pour expliquer qu'il faut être républicain.
Et dont le fils a été assassiné par Mohamed Merah. Raphaël Glucksmann, il semble que vous ayez peur de débattre.
Alors pardon ?
C'est ce que disent vos concurrents au sein de la primaire. C'est ce que disait Ségolène Royal à ce même micro il y a deux jours.
Il semble que je sors d'un débat avec Marine Le Pen, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon.
Mais au sein de la primaire socialiste, accuse de refuser de débattre et de ne vouloir qu'un seul débat là où les autres en veulent trois.
Moi, ce que je veux, c'est que les débats qu'on a, le débat qu'on a et le maximum d'exposition. Et donc quand France Télévisions et France Inter font une offre commune en prime time pour dire voilà ce qu'on vous propose, vous avez accès à des millions de Françaises et de Français, j'accepte cette offre. Ensuite, s'il y a un accord entre les chaînes, s'il n'y a pas d'exclusivité, moi j'ai pas de problème à faire des débats. C'est pas la question, on verra, on négociera. J'ai aucun problème à débattre. Par contre, ce qui est certain, c'est que cette primaire, ça doit être l'occasion d'aller parler aussi aux militantes et aux militants.
Mais ça veut aussi dire que vous êtes ouvert à l'idée qu'il y ait plusieurs débats?
Mais moi, je suis ouvert aux idées qui donnent le plus d'impact à cette primaire.
Plus il y a de débats, plus il y a d'impact.
Non, c'est pas vrai. Si on perd un débat en prime time sur France Télévisions, je suis désolé, on en touchera moins de monde. J'ai un immense respect.
Mais pourquoi? Parce que France Télévisions voudrait pas partager,
parce que
voudrait pas faire d'autres.
L'offre
qu'ils font, c'est France Télévisions, alors.
L'offre qu'ils font, c'est l'offre.
C'est des débats chez nous. Seulement s'il y en a qu'un.
Venez d'abord débattre chez nous. Bref, tout ça, honnêtement, on va pas passer des années à parler des débats, des débats, des débats, des débats.
Alors,
maintenant, je vais vous dire une
chose. Ils en ont tous fait un argument. Ils en ont tous un argument.
Bien sûr, ils vont faire un argument de tout. Moi, je veux dire, j'ai aucun problème avec ça. Ils vont faire un argument de tout. Mais, ce qui compte, c'est ce que nous proposons aux Françaises et aux Français. Et ce qui compte, c'est la grande bataille qu'on doit mener contre l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir.
Raphaël
ce
Luxman.
Qui compte, c'est le débat pour sortir la gauche de l'hégémonie de Jean-Luc
Luxman.
Mélenchon.
Justement sur
ce qui
débat...
compte, c'est nos lignes stratégiques. Ce qui compte, c'est notre capacité à mobiliser pour cette primaire. Ce qui compte, c'est qu'on soit des dizaines de milliers de gens qui nous rejoignent pour remporter cette élection présidentielle.
Votre
Mon obsession, c'est l'élection présidentielle parce que je pense que nous allons la gagner.
Votre équipe a donné comme argument à nos confrères de l'opinion qu'il n'y aurait qu'un seul débat parce que quand on est de gauche, je cite, on débat sur le service public. Donc le service public est de gauche.
Non, pas du tout.
Enfin, moi, quand on est de gauche, on débat sur le service public.
Non.
Elle a été prononcée par
quand
notre directeur de la communication auprès
de
mes confrères de l'opinion.
Quand on est de gauche, on doit faire un débat sur le service public. Eh bien oui, vous savez, le service public est attaqué aujourd'hui. En permanence, il y a eu une commission Charles Alloncle, il y a une attaque permanente de l'extrême droite contre le service public. Et oui, nous défendons le service public d'audiovisuel.
Est-ce que Charles Sapin, ancien journaliste
gauche,
du Figaro, désormais à Valeurs Actuelles,
peut
faire son éditorial?
Alors, je vais y venir, je vais répondre à votre question parce que je réponds à toutes les questions. Mais moi, j'ai aucun problème pour débattre aussi sur des chaînes privées. L'enjeu, c'est quoi? C'est
qu'on vous serez le bienvenu.
Je vous remercie. D'ailleurs, je suis là et je suis très bien accueilli. Le café était bon. Mais la vérité, c'est que il faut un débat sur les chaînes publiques. Et
mais,
il faut défendre l'audiovisuel public.
Mais personne ne dit qu'il n'en faut pas. La question, c'est cette phrase. Quand on est de gauche, on débat sur le service public. Et je vous pose la question, évidemment, parce que vous connaissez le contexte. La Société des journalistes de France Inter a déposé un préavis de grève pour les 13 et 14 septembre prochains pour protester contre le fait qu'il y aura un éditorial de 2 minutes 30 le week-end tenu par un ancien journaliste du Figaro, aujourd'hui à Valeurs Actuelles, Charles Sapin. Est-ce qu'il faut pouvoir avoir des éditorialistes de droite sur le service public?
Oui. Et il faut des éditorialistes de droite sur le service public. Je pense qu'il y en a plein, d'ailleurs. J'écoute le service public et je peux vous dire que je suis pas toujours d'accord avec leurs éditorialistes. Mais par ailleurs, moi, je ne commente pas les choix éditoriaux du service public. Parce que le service public est indépendant. Hein. Il n'est pas à nos ordres, donc on n'a pas à commenter en permanence leurs choix éditoriaux.
Mais est-ce que vous comprenez les journalistes de France Inter qui appellent à la grève pour protester contre la présence de Charles Sapin?
Moi, je comprends que... C'est Valeurs Actuelles, c'est un outil idéologique, hein, c'est un journal idéologique qui participe à l'offensive de l'extrême droite, notamment d'ailleurs contre le service public. Hein, ils font une sur trois, c'est contre le service public de l'audiovisuel. Mais moi, je ne commente pas les choix du service public de l'audiovisuel. Je veux dire, c'est pas un service qui est aux ordres des politiques. Donc ensuite, c'est une histoire interne.
Mais c'est en train de devenir une question politique. Vous le savez bien.
Oui, mais la question politique, c'est qu'est-ce qu'on fait du service public de l'audiovisuel? Est-ce qu'on le privatise comme le veut le Rassemblement national?
Lorsque Jean-Luc Mélenchon dit qu'il y a une colonisation du service public par les fachos...
Non, mais écoutez, il n'y a pas une colonisation du service public par les fachos, c'est pas vrai. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une bataille culturelle qui est menée par l'extrême droite, dont Valeurs Actuelles est un des vecteurs principaux.
Et je vous pose la question, est-ce que Charles Sapin peut faire un édito sur France Inter?
Mais je ne décide pas qui fait des...
Mais je vous dis pas de décider, je vous dis que quand Jean-Luc Mélenchon,
je ne commente pas les décisions de justice, et je ne commente pas non plus les choix éditoriaux du service public de l'audiovisuel. C'est totalement vieux jeu, je vous l'accorde. C'est à l'ère du tweet
permanent.
Non,
mais je suis un peu étonnée parce que comme votre équipe déclare quand on est de gauche, on débat sur le service public, ça veut dire que vous avez un avis sur le service public.
Bien sûr que j'ai un avis sur le service public. Il faut défendre le service public contre ceux qui veulent le privatiser. C'est extrêmement important pour notre démocratie.
Mais est-ce qu'il faut le défendre contre les fachos, comme le dit Jean-Luc Mélenchon?
Mais après, ce que fait le service public, l'organisation de sa grille, c'est pas mon problème. Moi, je suis pas rédacteur en chef de France Inter. Je suis pas directeur de l'information à France 2. Genre, c'est pas mon histoire. Moi, mon histoire, c'est je veux qu'en France, il y ait un service public. Et je veux qu'en France, il y ait une école publique. Et je veux qu'en France, on défende les services publics. C'est quand même pas compliqué. Et je vois qu'il y a une offensive aujourd'hui pour les détruire. Pour les détruire et pour les privatiser. Et que ça, c'est extrêmement dangereux.
C'est
et
dans le programme du Rassemblement National. Hein.
Bah oui, c'est dans le programme du Rassemblement National. Et c'est... L'offensive, elle est coordonnée entre des médias qui appartiennent à Monsieur Bolloré, nommons-le, qui a des relais à l'Assemblée nationale, et c'est dans le projet de Marine Le Pen. Si Marine Le Pen gagne, il n'y a plus de service public de l'audiovisuel. Eh bien, on peut penser comme ça, ah, très bien, on fera des économies. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va saper la République. Et c'est ça son programme. En réalité, c'est quand même pas compliqué. Moi, je ne suis pas directeur des programmes du service public. Par contre, je suis un citoyen et un candidat à la présidence qui vous explique que moi, je défendrai le service public de l'audiovisuel contre les offensives qu'il vise.
Voilà, ça c'est de la politique. Raphaël Glucksmann, candidat à l'élection présidentielle et des députés européens, place publique. Merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h51 sur RMC et BFM TV. C'est vendredi, nous on se retrouve lundi matin, 6h50. Restez bien sur RMC, on poursuit avec les grandes gueules. Qui est autour de la table, Alain Marchal?
Eh bien, les jugés, ce sera avec Emmanuel Devilliers, l'entrepreneur. Nous serons avec Sandrine Pégan, l'avocate, entre autres grandes gueules. Et avec Sarah Knafo, qui vient présenter le casse du siècle sur aujourd'hui le gaspillage de l'argent public.